Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoption avec le docteur Jean-Vital de Montléon, pédiatre au CHU de Dijon, qui dirige la plus importante consultation d'orientation et de conseil pour l'adoption. Nous entendrons également le témoignage d'une maman qui a adopté un enfant à l'âge de 6 ans. Et nous aurons au téléphone Virginie Gomez, la correspondante de RFI en Éthiopie, et Berry Bibatag Nandou, qui est ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Niger. Docteur de Montléon, combien existe-t-il de consultations comme la vôtre en France ?
Alors, il faut commencer par la plus ancienne, qui est celle de mon ami Jean-Jacques Choulot à Pau, qui existe depuis une vingtaine d'années. Après, il a été créé celle de Dijon. Et puis, il s'en est créé, et puis il va s'en créer encore quelques-unes. Donc, en gros, il doit y en avoir à peu près une quinzaine actuellement en France, mais avec des niveaux d'expérience, des niveaux d'ancienneté très 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 différents de l'une à l'autre. Quoi.
Et il en faudrait plus ? Est-ce que la loi qui va justement se pencher sur les questions d'adoption prévoit ça ?
Moi, je pense qu'il faut déjà privilégier la qualité à la quantité. Et c'est-à-dire qu'une consultation d'adoption qui verrait moins de 50 enfants par an n'a pas trop de raison d'être, si vous voulez. Plus on voit d'enfants, plus on est... Tout à fait. Je crois que déjà, il faudrait donner les moyens à celles qui existent et qui ont fait leurs preuves, et puis aider bien entendu celles qui veulent se développer, qui sont motivées pour se développer. Je pense qu'un chiffre d'une quinzaine n'est pas un mauvais chiffre.
Ça pourrait suffire.
Ça pourrait suffire si elles avaient vraiment les moyens chacune. Et voilà.
Et ça, vous n'avez pas forcément les moyens, entre autres, apparemment, de recevoir aussi longuement les parents.
Ben, on a aucun moyen. Cette consultation, qui est une consultation publique, elle n'existe que par ma bonne volonté, grâce à la tolérance de mon chef de service, à la tolérance du directeur du CHU de Dijon, qui me laisse faire cette consultation, qui me prend beaucoup de temps et qui m'enlève donc du temps pour d'autres choses.
Et qui n'est pas forcément bien, puisqu'on parle beaucoup de la réforme de l'hôpital en France en ce moment, pas forcément bien, je dirais, qualifié dans tout ce qu'on appelle de tarification à l'acte.
Absolument pas. Hein. C'est une des consultations d'une heure qui coûte le prix d'une consultation normale. Donc, est-ce que la solution, ce serait de faire des consultations privées très chères ? Moi, c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout mon éthique. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui circule dans l'adoption. Et c'est pas la peine de demander encore plus de l'argent pour
aux parents. Je vous propose d'écouter Claudine Hérault, qui a 45 ans. Elle a adopté d'abord un pupille de l'État, un Mathias, qui a 8 ans. Puis, via l'association Les Enfants de l'Espérance, elle a adopté un petit garçon de 7 ans, Karan, qui est né à Bombay, en Inde. Il a été trouvé dans la rue par la police. C'était un grand prématuré. C'est une adoption tardive, hein, puisque cela fait simplement un an que Karan est chez eux. Ils l'ont eu à l'âge de 6 ans. Des propos recueillis par Caroline Lafargue.
L'association, quand on a fait notre démarche, on leur a dit notre âge, ils nous ont dit, bon, problème, vous avez 45 ans, donc pour avoir un enfant, ça sera possible, mais un enfant qui a une petite particularité. Et là, ça ne posera pas de problème au niveau des autorités indiennes, puisqu'on s'est dirigé vers les autorités indiennes.
Comment ça s'est passé la première fois qu'on vous a parlé à vous et à votre mari de Karan ? On vous l'a présenté comment, ce petit bout ?
Alors, ce petit bout, quand on nous a présenté, c'était sur dossier. Pour nous, on a eu un petit choc, parce que sur le dossier, au niveau médical, Karan avait problème physique, moteur, cérébral. C'était pas du tout ce qu'on avait demandé. On demandait à un enfant qui avait un problème de particularité, mais pas si importante. Quand on a eu le dossier, on a réfléchi pendant 15 jours avant de répondre oui. Quand on a vu tout son dossier médical avec tout handicap physique, moteur, voilà, on a eu très peur. Et le fait que nous avons Suzanne materne qui, elle, se déplace en Inde, va dans les orphelinats, voit ses enfants, nous a rassurés. Et puis on s'est lancé, voilà. On ne s'est pas fié à la vie médicale, mais à la vie d'une maman qui, elle, l'a vue et... on ne peut que la remercier.
Donc il avait quel âge ?
Karan, il venait juste d'avoir 6 ans. Et Karan, c'est tout de suite bien adapté à nous.
Alors qu'est-ce qu'on entend comme par particularité ?
Alors Karan, c'est un enfant qui est né avec une très grande prématurité, puisqu'il est né, il faisait 980 grammes. Et de cette grande prématurité, il a fait une rétinopathie. J'ai été voir sur internet rétinopathie. Là, j'ai eu très peur parce qu'on parlait de cécité, on parlait bon des choses d'une gravité. Donc, ça m'a mis une grosse angoisse. C'est-à-dire qu'il a des petites cicatrices au niveau de la rétine, mais ça n'a pas touché la macula, ça n'a pas touché la vision au niveau de l'œil. Donc, il voit bien. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a une très forte myopie. C'est-à-dire que quand nous avons été le chercher à Bombay, il avait 2/10 et 1/10 à chaque œil. Voilà, on nous avait dit aussi à Bombay, le médecin qui était de l'association nous avait dit c'est une rétinopathie non évolutive, ce qui veut dire qu'il ne l'amenait pas avec une cécité. Elle aurait été évolutive, je pense qu'on aurait revu notre projet, on serait peut-être arrêté. Voilà, c'était pas ce qu'on recherchait. Et puis cette rétinopathie, je pense qu'en France maintenant, d'après ce que j'ai vu, si je me trompe pas, quand les enfants de très grande prématurité sont nés en France et qu'ont une rétinopathie, ils sont pris tout de suite en charge et il y a beaucoup moins de séquelles que pour Karan qui lui, on l'a eu à 6 ans et c'est une rétinopathie, peut-être qu'il n'a pas été plus ou moins bien suivi quand il était petit. Au niveau des yeux, sa myopie, on le suit ici, il est suivi par la fondation Rothschild. Toutes les 3 semaines, on l'a emmené, il a eu une porte de lunettes, où là il avait déjà commencé à récupérer 4 et 5/10, ne serait-ce qu'avec des portes de lunettes en espace de 1 mois. Après, on lui a mis une occlusion sur chaque œil pour qu'il puisse faire travailler l'œil où c'était un petit peu difficile pour que ça puisse monter. Et là, depuis 6 mois, avec cette occlusion, il a atteint 7/10 au niveau des 2 yeux avec son port de lunettes. Et puis alors, il a un léger strabisme, voilà, qu'on fera opérer un peu plus tard. Donc c'était le premier problème. Son deuxième problème, c'est qu'il avait une surdité à l'oreille droite. Donc il n'entend pas cette oreille et ça c'est irréversible, on ne peut rien faire. Mais bon, avec l'oreille gauche, il entend et à l'école, ça se passe bien. Le petit problème qu'il avait aussi, c'est qu'il faisait une neurinésie, c'est-à-dire qu'il faisait pipi au lit. Donc ici, en voyant la pédiatre, on lui en a parlé, c'est vrai qu'il faisait pipi. Et puis Karan se sentant tellement bien à l'aise à la maison, voilà, il est arrivé à la maison comme si c'était chez lui. Tout est nouveau, il pose plein de questions. On a vu la pédiatre et puis elle m'a dit un petit comprimé. Karan fait pipi une fois par mois, si ça lui arrive. Voilà. Donc l'œnurésie, petit problème qu'il avait à Bombay, ne l'a plus et ça va mieux. Et puis bon, Karan est un enfant qui va bien. Donc depuis son arrivée, il a pris 9 cm. Ça va faire 1 an qu'il est là. Il pousse bien, il grandit. Intellectuellement, ça tourne très très vite et très très bien. Donc pour nous, on se dit que c'est un battant et il se battra jusqu'au bout. En plus, il est beau comme tout. C'est un amour.
Priorité santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoption avec le docteur Jean-Vital de Montléon qui dirige une consultation d'orientation et de conseil pour l'adoption au CHU de Dijon. Docteur de Montléon, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit.
C'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'elle montre un petit peu tout ce qu'on peut voir dans les consultations d'adoption. Ce petit bonhomme a une pathologie qui est très fréquente aussi en France, qui est la prématurité. Mais le fait qu'il vienne d'un pays moins favorisé que la France, eh ben, il a aussi des conséquences. C'est vrai que la rétinopathie, donc ces problèmes de vision que peuvent avoir des anciens prématurés parce qu'on leur a donné trop d'oxygène, c'est par exemple le cas de Gilbert Montagnier, le Stevie Wonder, qui étaient des grands prématurés, et pour leur sauver la vie, on a été obligé de leur donner beaucoup d'oxygène. Elle a quasiment disparu en France parce que on a bien l'habitude et on a plus de moyens, on a plus de machines qui permettent de pas inonder trop d'oxygène les enfants.
De mieux doser.
De mieux doser, tout à fait. Et là, ça montre vraiment toute la diversité, quoi.
Et ça montre qu'en fait, avec des consultations d'ophtalmo, avec le port des lunettes, c'est extraordinaire. Il arrive à 7/10, c'est bien.
C'est très très bien, c'est très très bien. Et puis, comme le dit sa maman, c'est un battant, hein. Et manifestement, lui aussi, c'est bien adapté. Et il a envie de progresser et il risque de faire encore plein de progrès.
Les enfants adoptés sont-ils plus fragiles que les autres, justement par rapport à ces conditions, quand ils sont nés prématurés, parce qu'ils n'ont pas forcément eu les soins? Parce que psychologiquement, ça peut être difficile.
Oui, ils sont plus fragiles, il faut pas se leurrer, que la plupart des enfants non adoptés, parce qu'ils ont vécu des grands chamboulements, parce que des fois, ils ont été aussi séparés de leurs parents à cause de problèmes de santé. Ça peut être la raison de l'adoption. Et puis, parce que c'est pas toujours facile dans notre société d'être différent par son histoire, d'être différent par sa couleur de peau. Donc, c'est vrai que c'est des enfants qui sont plus fragiles et il faut qu'ils apprennent à se défendre, à se battre, et leur famille aussi doit apprendre à les aider à s'incorporer complètement dans notre société.
Il y a une étude qui était parue dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, qui montrait que les enfants adoptés consultaient plus souvent un psychiatre.
Oui, c'est tout à fait compréhensible, hein, quand on a traversé la moitié du monde pour aller chercher son enfant. Pour parler vulgairement, au premier fait de travers, on n'hésitera pas à traverser la rue pour aller chez un psychologue ou un psychiatre ou un pédopsychiatre.
Donc c'est plutôt dû au fait que les parents sont soucieux du bien-être de leurs enfants, finalement.
Oui, il y a quand même le risque d'avoir des problèmes psychologiques est quand même plus important. Là aussi, il ne faut pas être trop angélique chez les enfants adoptés que chez les enfants biologiques, pour tout un tas de raisons, qui sont celles que j'ai déjà énumérées.
L'histoire de l'abandon.
L'histoire des séparations, l'histoire des souffrances, l'histoire de ces enfants qui sont un peu ballottés, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et puis aussi le fait du regard de notre société, qui n'est pas toujours bienveillant pour eux. Donc c'est vrai que les enfants ont plus de soucis, mais c'est vrai aussi que trop souvent, l'adoption est l'arbre qui cache la forêt.
De nombreuses adoptions se font à partir de l'Inde, on l'a vu dans cette émission, mais aussi à partir de l'Éthiopie. D'ailleurs, l'Éthiopie est le deuxième pays d'origine des enfants adoptés par des Français, après Haïti. Virginie Gomez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Addis Abeba, en Éthiopie. Pourquoi beaucoup de parents viennent-ils en Éthiopie pour adopter un enfant ?
Je pense qu'il y a deux raisons majeures à cette augmentation du nombre d'enfants adoptés par les Français en Éthiopie. D'abord, en Éthiopie même, le nombre d'agences qui s'occupent d'adoption a énormément augmenté dans un contexte de libéralisation du secteur, si je puis dire. Donc ces agences sont aujourd'hui 70. Et puis parallèlement, l'Éthiopie n'est pas signataire de la Convention de Genève sur la protection de l'enfant et l'adoption internationale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une certaine souplesse en termes de législation qui rend l'adoption plus facile. J'ai rencontré par exemple un couple de jeunes Français adoptant en Éthiopie, à qui l'origine de l'enfant était complètement indifférente. Bien très rapidement, ce couple a été orienté vers l'Éthiopie, et ceci dans un contexte où de plus en plus de pays, y compris en Asie, sont signataires de la Convention et des textes associés, donc ce qui va de pair avec une complication des procédures. J'ajoute qu'il y a plusieurs millions d'orphelins en Éthiopie, ce qui est aussi bien sûr une explication.
Est-ce que le gouvernement français est favorable à cette évolution ?
Écoutez, il y a eu récemment une visite en Éthiopie de la secrétaire d'État française aux droits de l'homme, Ramayad, sur le thème de l'adoption. Essentiellement, elle venait pour rappeler que l'adoption internationale doit être le dernier recours pour l'enfant. Au traumatisme d'avoir perdu sa famille, a-t-elle dit, s'ajoute celui d'être arraché à sa culture d'origine, et le droit de l'enfant est supérieur au droit à l'enfant. Donc ça, ce sont les propos de Ramayad. Et puis, deuxième message, elle voulait vérifier que tout se fait dans la légalité. Et ça, c'est une allusion claire à la peur des trafics, la peur, par exemple, que l'enfant ait encore des parents sur place, mais qu'il soit convaincu, que ses parents soient convaincus par des intermédiaires de faire adopter leur enfant, qui aura une vie meilleure à l'étranger, etc. Donc pour une adoption, une famille adoptante peut dépenser entre 6 000 et 20 000 euros, et c'est aussi la base de ses inquiétudes.
Et quel est le regard des Éthiopiens sur cette adoption internationale ?
Alors, il n'y a pas de débat en tant que tel. Je vous rapporte une discussion que j'ai entendue entre deux Éthiopiens. Donc un monsieur qui est impliqué de longue date dans les adoptions internationales, il expliquait la chance que ça représente pour un enfant qui n'a plus aucun parent, plus aucun soutien financier en Éthiopie, d'être adopté, de partir à l'étranger, de bénéficier d'abord de l'amour d'une famille et puis toutes les opportunités qui peuvent aller avec en termes de santé, d'éducation, etc. Puis vous aviez un autre point de vue exprimé par une femme qui est très active dans les associations de femmes, donc pas dans l'adoption, qui disait, mais vous vous rendez compte, on ne peut plus prendre l'avion sans voir quelques couples étrangers qui sont avec des enfants éthiopiens. Est-ce qu'en Éthiopie, on ne peut pas adopter nous-mêmes nos enfants ? Est-ce qu'on n'a pas une tradition d'adoption des enfants qui sont sans famille ? Donc, un mélange d'inquiétude et puis un peu de fierté nationale. Donc, c'est un peu l'éternel débat entre le cas particulier d'enfants qui ont un développement heureux avec les familles à l'étranger, et puis le principe général.
Et puis le risque de trafic que vous avez évoqué, Virginie. Virginie Gomez, merci. Je rappelle que vous êtes la correspondante de RFI à Addis Abeba en Éthiopie. Docteur de Montléon, je voulais votre réaction là-dessus, parce que vous l'avez évoqué au début d'émission, cette question du trafic vous préoccupe.
Oui, bien entendu, une adoption qui part sur de mauvaises bases, qui part sur un trafic d'enfants, c'est quelque chose qui sera catastrophique. On finira toujours par le payer un jour ou l'autre.
C'est-à-dire que l'enfant ira mal, c'est ça que vous voulez dire?
C'est-à-dire que l'enfant ira mal et que les parents iront mal. Et même si parce que ça s'est passé à 20 000 km de chez eux, parce qu'ils sont aveuglés par leur désir d'enfant, ils croient parfois que tout sera oublié au retour. Et moi, mon devoir en tant que spécialiste de l'adoption, c'est de leur dire que rien ne sera oublié. Et dès que votre enfant aura un souci, vous rappellerez que vous l'avez adopté dans des circonstances pas très claires. Mais je tiens vraiment à dire que ce n'est pas du tout le cas de l'Éthiopie. Parce que on nous dit, bon, l'Éthiopie n'a pas signé les conventions internationales, mais toutes les adoptions en Éthiopie se passent par l'intermédiaire d'OA, des organismes agréés à l'adoption, qui ont de très bons contacts avec des Éthiopiens, avec les orphelinats éthiopiens, avec le grand orphelinat d'Éthiopie, par exemple, comme le Toukoul, mais avec d'autres orphelinats qui s'appellent les Natalem, qui s'appellent la Petite Maison. Et ce sont vraiment, en Éthiopie, qui est un énorme pays d'origine pour la France actuellement, ce sont des adoptions qui se passent bien.
D'accord, et c'est donc pas parce qu'ils n'ont pas signé cette convention de l'enfant qu'il y a trafic, il ne faut pas forcément faire un lien entre les deux.
Totalement. On a vu des pays signer cette convention et continuer à faire des trafics. Il ne faut pas se cacher derrière cette convention.
Et vous pouvez nous dire quel pays ?
En Europe du Sud-Ouest, du Sud-Est.
Difficile de préciser.
Voilà, c'est pas la peine de...
Mais vous alertez les parents sur cette question.
Oui, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière des conventions internationales en pensant que tout ira bien. Et puis, il y a par exemple d'autres pays, comme, je vais en dire un, la Thaïlande, qui n'a pas signé cette convention pendant longtemps, ou comme la Colombie aussi, mais qui sont des pays extrêmement propres pour ce qui est de l'adoption. Mais ils trouvent que cette convention internationale ne correspond pas à leur pratique, est un petit peu trop... occidentale pour eux.
Ne correspond pas forcément à leur culture.
Tout à fait, c'est tout à fait respectable de leur part.
Majama mindo wacha fima pieti tata ko adando mi tiana mintara hitamo jimbadio hala watu barake Afrika yuma jama ko ammi wani mande hinda wawine di yuma misal minima nene Afrika yuma jama mi salminima nene Afrika kachingalama nene Afrika ko ami wani mande hajarama nene Afrika libernea salminima.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de l'adoption avec le docteur de Montléon, qui dirige une consultation d'orientation et de conseil pour l'adoption au CHU de Dijon. Et nous avons maintenant au téléphone Barry Bibata Agnandou, qui est ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant au Niger. Barry Bibata Agnandou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. J'avais envie de vous demander tout simplement, tout d'abord, quel regard vous portez-vous sur cette adoption ?
Je vous remercie de m'avoir donc invité à cette émission. Et je voulais dire qu'au Niger, nous préférons le plus simplement possible que l'enfant reste dans son foyer. L'adoption est le dernier recours. Donc c'est si seulement nous n'arrivons pas à trouver les pères et mères ou même les descendants ou ascendants directs, les ascendants directs de l'enfant, que nous acceptons l'adoption.
Et vous essayez aussi est-ce que vous essayez aussi du coup de favoriser, je dirais, l'adoption par d'autres Nigériens, même si ce n'est pas forcément la famille?
Voilà, exactement. C'est ce que je vous ai dit en fait. Nous préférons que l'enfant reste au Niger. Seulement, on n'arrive pas à retrouver des adoptants au Niger, que nous favorisons l'adoption extérieure, étrangère.
Et est-ce que cette adoption internationale est fréquente?
Bon, l'adoption internationale, elle est fréquente. On a de plus en plus de demandes. Je sais que, en France, par exemple, nous avons une convention signée et que chaque année, nous avons des visites sur le terrain, aussi bien au Niger qu'en France, pour aller constater de visu les enfants qui ont été adoptés, quelles sont leurs conditions de vie, est-ce que ces enfants arrivent à s'épanouir dans la famille des adoptants, est-ce que l'adoption en fait leur est profitable et bénéfique.
Vous êtes soucieuse de savoir si ces enfants vont bien. Est-ce que le Niger est signataire de cette convention sur les droits de l'enfant?
Absolument, le Niger est signataire de cette convention sur les droits de l'enfant. Et déjà à partir du mois de juin, nous serons présentés à Genève pour aller défendre notre quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre justement de cette convention des droits de l'enfant.
Docteur de Montléon, je voudrais votre réaction à ce que vient de dire Barry Bibata Gnandou. C'est important que les pays, je dirais, protègent justement leurs enfants.
Complètement. L'enfance, c'est l'avenir d'un pays et c'est normal que les pays se préoccupent de leurs enfants. Donc, chaque pays est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Certains pays font le choix... Tous les pays font le choix d'essayer de garder le maximum d'enfants dans le pays d'origine, avec plus ou moins d'importance là-dedans. À l'opposé peut-être du Niger, on peut citer la Colombie, où depuis pas mal d'années, le gouvernement colombien, enfin les différentes autorités colombiennes, ont décidé de donner une chance à l'enfant, même s'il devait quitter le pays. C'est une raison comme une autre. Il y a quelque chose que Madame la Ministre a dit qui est extrêmement important et sur lequel on ne fait peut-être pas assez attention en France, c'est de bien renseigner les pays d'origine sur le devenir des enfants. Et souvent un petit peu de la part des autorités, de la part des parents adoptifs, des associations aussi, on dit bon ben l'enfant il est là, il est en France, il va bien, et c'est vrai que la plupart du temps heureusement l'enfant va bien, et on tient plus au courant le pays d'origine. Et c'est pas bien parce que le pays d'origine qui confie ses enfants, c'est quelque chose de très important de confier ses enfants, c'est normal qu'il ait un retour, qu'il sache que deviennent les enfants qui sont partis.
Barry Bibata Gnandou, vous voulez réagir, dire un dernier mot?
Oui, ce que je voulais dire, vous savez que l'adoption d'un enfant est un acte qui est extrêmement important. Et on ne peut pas, de la façon la plus légère, de faire partir un enfant, sachant que l'enfant est très fragile, sachant que l'enfant ne peut pas, en cas de difficulté, se défendre. Donc, il appartient à nous autres, responsables de différents pays, de mettre des garde-fous pour faire en sorte que l'enfant qui est adopté n'aille pas souffrir dans le pays d'adoption. Et c'est la raison pour laquelle le Niger a opté vraiment pour d'abord l'adoption interne. Ce n'est que exceptionnellement si l'enfant n'arrive pas à être adopté par quelqu'un au Niger qu'on puisse le donner à un adoptant étranger.
C'est
mais
très
ça
important.
Ne veut pas dire que le... Oui. Ça ne veut pas dire que les portes du Niger sont fermées. Nous avons effectivement des conventions que nous signons avec des pays après enquête qui viennent pour l'adoption de nos enfants. Nous avons une convention avec la France, nous avons une convention avec le Canada, nous venons de signer une convention avec le Canada, nous venons de commencer les procédures avec la Belgique. C'est tout simplement pour dire que nous regardons à la loupe là où vont nos enfants.
Ce qui est très important, Barry Bibata Gnandou, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant au Niger. Docteur de Montléon, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des recherches sur leurs origines? Enfin, d'enfants d'ailleurs plutôt à l'âge adulte qui font des recherches sur leurs origines, justement.
Alors, c'est un grand mythe de l'enfant adopté, de l'adolescent adopté, de l'adulte adopté à la recherche de ses origines. Et finalement, c'est vraiment un mythe. Y a quand même une grande majorité des enfants qui, des ados, quand on les interroge, qui disent qu'ils aimeraient bien savoir d'où ils viennent, qu'ils aimeraient bien savoir pourquoi ils ont été séparés de leur famille biologique. Mais ceux qui sont vraiment obsédés par cette recherche, on les entend beaucoup parce que ça nous touche souvent nous qui connaissons bien nos parents, mais ils sont finalement tout à fait minoritaires, mais c'est moins de 5% des enfants adoptés qui ont vraiment ce besoin de connaître leurs origines.
C'est important de le rappeler, parce qu'effectivement...
C'est important de le rappeler. On a toujours cette image en tête, ça fait partie de quelque chose, on a l'impression que tous les enfants adoptés vont être obsédés par leur origine. La plupart du temps, oui, ils aimeraient bien savoir un petit peu plus.
Mais sans plus.
Mais sans plus. Souvent, savoir pourquoi, quelles sont les conditions dans leur pays qui ont provoqué cette séparation, leur suffit. Et puis savoir que leurs parents, les parents avec qui ils vivent, ils trouvent le bonheur auprès de ces parents, ça leur suffit aussi.
Y a-t-il des adoptions ratées ?
Malheureusement, oui, il y a des adoptions ratées. Parce que certains enfants ont vécu des choses trop difficiles et ne sont plus prêts à être adoptés. Certains parents aussi, même s'il y a des désagréments qui sont bien faits en France, certains parents n'auraient jamais dû adopter. Et puis, le plus fréquent, c'est ce que j'appelle les erreurs de cigogne. C'est-à-dire des enfants qui, peut-être dans une autre famille, auraient pu trouver leur bonheur, et des parents qui, avec un autre enfant, ça aurait peut-être mieux collé. Et c'est pour ça que c'est important, et comme disait Madame la Ministre, c'est bien de regarder à la loupe, qu'à chaque adoption, que les apparentements se fassent en prenant le temps, laissant le temps aux parents, de voir si cet enfant n'est pas trop éloigné de leur désir d'enfant.
Une dernière question, docteur de Montléon, pour conclure cette émission. Vous dites, l'adoption répond à un désir égoïste.
Oui, ça aussi c'est un autre mythe. On croit que l'adoption est un geste humanitaire, et absolument pas. L'adoption n'est pas un geste humanitaire dans l'immense majorité des cas. Et heureusement, quand on veut adopter un enfant, dans beaucoup de cas, c'est qu'on n'arrive pas à en avoir un. Et puis quand on décide d'avoir un enfant de manière naturelle, sous la couette, c'est pas pour sauver le monde, c'est pas pour peupler la planète, c'est parce qu'on a ce désir égoïste d'avoir un enfant. Donc quand on n'arrive pas à faire cet enfant de manière conventionnelle, sous la couette, eh ben on a ce désir de créer ou d'agrandir sa famille, et qui est vraiment un désir égoïste.
Et c'est important d'en avoir conscience.
C'est important d'en avoir conscience, parce que la plupart des familles adoptives le savent bien, et ils en ont un petit peu marre qu'on leur dise toujours « c'est bien ce que vous avez fait ».
Docteur de Montléon, merci. Je rappelle que vous dirigez la plus importante consultation d'orientation et de conseil pour l'adoption. Merci à France Bleu Bourgogne qui nous a permis d'établir cette liaison en direct de Dijon. Demain, nous parlerons de l'ostéopathie et vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22.